Nous sommes aujourd'hui, chers auditeurs de Radio Maglone, à la chapelle des Pénitents Bleus de Montpellier. Et dès mon entrée dans la chapelle, j'aperçois le sacristain, Patrick, qui est en même temps pénitent. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors Patrick, cette chapelle est toujours ouverte pratiquement et vous en avez un peu la responsabilité de l'ouvrir, de la fermer. Est-ce qu'elle est fréquentée? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui passe?
En général, oui, elle est assez fréquentée et ça va de personnes qui viennent prier quelques secondes jusqu'à certaines qui viennent faire leur dévotion, faire leur chapelet ou rester tout simplement profiter du calme et de l'ambiance.
Et il y a des habitués qui viennent régulièrement, que vous avez repérés?
Oui, tous les matins nous avons la messe, du lundi au samedi, et parmi les gens qui viennent à la messe, il y en a une bonne quantité qui sont des habitués et qui viennent très régulièrement à la messe, et de même souvent de villages extérieurs à Montpellier.
Alors quels sont les cultes qui sont, ou les honneurs, ou les saints qui sont le plus honorés ici? Est-ce que c'est Saint-Claude qui est le patron de la confrérie, ou bien est-ce qu'il y en a d'autres?
Tout d'abord, je pense que les gens viennent pour le Saint-Sacrement qui est constamment à l'autel. Donc il est vrai que les personnes viennent prier Sainte Rita et Saint-Antoine, la Sainte Vierge aussi, la Vierge de Lourdes que nous avons, Sainte Thérèse, avec Saint-Roch et Padre Pio, tout le monde trouve un interlocuteur pour s'adresser à Dieu.
Merci Patrick de ces explications. Après avoir rencontré Patrick, nous sommes maintenant accueillis par Maître Philippe Becquet, Philippe ici, qui est le vice-prévôt de la confrérie des Pénitents Bleus. Bonsoir Philippe et merci de nous accueillir.
Bonsoir, je vous en prie, soyez bienvenus.
Voilà, alors Philippe, vice-prévôt, c'est une fonction importante dans la confrérie?
Oh, c'est une fonction, je dirais, essentiellement technique, hein, puisque nous sommes une association, loi 1901, et qui vit, j'allais dire, de la charité des fidèles qui viennent et qui, effectivement, nous aident beaucoup.
Bon, donc il y a une gestion matérielle toujours délicate sur le fil du rasoir dans ce genre d'association.
Il y a effectivement une gestion assez délicate. Bon, pour l'instant, ça se passe relativement bien. La chapelle est effectivement ouverte très, très fréquemment et ceci nous aide beaucoup.
La confrérie des Pénitents Bleus, c'est une très vieille institution, même si elle n'a pas toujours porté ce nom. En quelques mots, quelle est l'histoire de votre confrérie, Philippe?
Alors c'est vraiment une très très longue histoire, hein, puisque la confrérie remonte à l'an 1040. C'est assez étonnant parce que la plupart des confréries de pénitents en Languedoc et en Provence sont issues essentiellement de la contre-réforme. Alors que nous, notre confrérie est beaucoup plus ancienne. Elle remonte donc à cette période-là et en fait était installée du côté, pour les Montpelliérains qui connaissent, du côté de la Providence, là où il y avait un charnier assez important qui était le charnier Saint-Barthélemy.
Donc c'était une fonction auprès des hospitalières, disons, où l'hôpital c'était l'église finalement.
Tout à fait, c'était bien une fonction hospitalière, j'allais dire, presque post-hospitalière, puisque c'était pour accompagner les défunts, effectivement, au charnier. C'était donc une confrérie de laïcs qui a perduré malgré les guerres de religion, hein, puisque notre confrérie a beaucoup souffert des guerres de religion.
En faisant cette série d'émissions sur les visites d'église, je me suis rendu compte combien la période des guerres de religion avait été dramatique pour notre patrimoine et pour même installer des cicatrices dans les âmes et dans la mémoire collective. Et j'ai trouvé que finalement, les guerres de religion avaient peut-être fait, sur le plan matériel, beaucoup plus de dégâts que la Révolution.
Je pense effectivement, les églises de Montpellier ont été pratiquement à deux reprises totalement mises à ras de terre, hein, comme le disaient à ce moment-là les journalistes. Et effectivement, notre chapelle, la première, n'a pas échappé à ce harlam, puisque c'était le terme utilisé. Ceci étant, je pense que les catholiques, dans certains cas, n'ont pas fait beaucoup mieux. Mais... ceci étant fait.
Oui, c'est Lao Tzu qui disait que dans une bataille, il n'y a pas de grande victoire, il n'y a que de la tristesse et du dégât finalement. Alors, sans reprendre toute l'histoire, il y a eu plusieurs installations, très schématiquement.
Alors, très schématiquement, nous sommes restés très très longtemps, hein, près de 4 siècles du côté de la Providence. Ensuite, nous avons été abrités dans différentes églises qui ont, pour certaines, disparu. D'autres ont été profondément modifiées. Nous avons même eu une chapelle à Notre-Dame-des-Tables. Mais notre véritable chapelle date effectivement de la fin du XVIe siècle, où on s'est installé à côté de la tour de la Babote.
Oui, donc et là, c'est à la Révolution, ça a été vendu, et finalement, vous êtes retrouvé à la rue. Et la chapelle actuelle, on va enjamber un peu les périodes, la chapelle actuelle date du XIXe siècle. Dans quelle période et dans quelles circonstances ?
Alors, la chapelle actuelle, effectivement, date du milieu du XIXe siècle. En 1844, la confrérie a acheté le terrain de la rue Loïs et de la rue des Étuves, et la chapelle a été édifiée en 1845. Dans la mesure où nous étions préalablement à Sainte-Eulalie, et où nous avons été chassés de Sainte-Eulalie à l'issue de différents procès qui nous ont été très procéduriers pendant toute notre vie de pénitent. Certains procès ont duré 300 ans.
Donc nous sommes ici donc dans cette chapelle néo-gothique construite par un architecte entrepreneur de Montpellier.
C'est un architecte qui est connu, qui s'appelle Omer Lazare. Il est connu à Montpellier pour être à l'origine de l'ouverture. Pas de façon haussmannienne, mais presque de la rue Saint-Guillain. Je ne savais absolument pas que la rue Saint-Guillain avait été ouverte. Elle a été ouverte par cet architecte et entrepreneur, Omer Lazare. Et donc il a construit cette chapelle assez rapidement, en 1845. Et elle est assez particulière dans la mesure où c'est la seule chapelle de style néo-gothique troubadour qui existe encore sur Montpellier.
Alors néo-gothique, on connaît un peu, troubadour c'est certainement moins connu. Je pense que ça vient de l'engouement à une certaine époque, de tout ce qui était anecdotique dans le Moyen-Âge. Et paradoxalement, cette mise en vigueur de l'anecdotique du Moyen-Âge est un peu liée aux méfaits de la Révolution qui a, on a réouvert des tombeaux de rois, etc. Et on s'est finalement replongé dans tout un mobilier moyenâgeux qui était assez anecdotique. Et l'architecture, un peu, ça n'est influencé, ça n'est inspiré de tout ça.
Oui, je crois qu'effectivement, c'est une réaction, j'allais dire, à la Révolution. Et on voit dans cette période un intérêt tout particulier pour la période des troubadours, etc., même dans la peinture.
On voit d'ailleurs, sur de part et d'autre du porche d'entrée, il y a des petits chapiteaux avec des animaux, des feuilles. Ça sent bien son époque du 19e siècle, du milieu du 19e, très, très anecdotique. On raconte des petites histoires.
Oui, c'est l'influence Viollet-le-Duc et j'allais dire c'est tout à fait cette période-là.
Alors, c'est une église avec une belle nef, une très grande élévation. Il y a à l'étage, il y a un triforium percé qui s'ouvre sur une grande galerie. dominé par un troisième étage percé de fenêtres qui éclaire tout petit peu les. Je dis un tout petit peu parce que les fenêtres ne sont pas très très grandes et les vitraux sont très colorés. Ces vitraux présentent tous des écussons avec des armoiries. Ça rappelle des évêques, des prévôts, ça rappelle des donateurs.
Alors je vais être d'une grande franchise, effectivement il y a beaucoup de signes héraldiques dans ces vitraux, mais je n'en connais pas l'origine ni la motivation. Ouais.
Alors je vois en rez-de-chaussée, donc de part et d'autre de la nef, il y a un bas-côté très, très modeste dans sa largeur et dans sa hauteur. Mais du côté de la rue Loïs, il y a quatre fenêtres qui sont, elles, privées de vitraux. Mais c'est une carence très momentanée puisque Patrick Bullard est en train, le maître verrier de Saint-Alexandre, dans le Gard, est en train de préparer quatre vitraux qui vont être prochainement installés dans ses verrières.
Alors effectivement, ces vitraux qui vont être prochainement installés nous sont offerts par le consulat à la principauté de Monaco, en souvenir du prince régné de Monaco qui a fait ses études à Montpellier pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'était dans les années 42-43, et qui a été intronisé pénitent bleu de Montpellier. Et donc, en souvenir du prince régné, la principauté nous offrira quatre vitraux qui sont, en tout cas pour ce que j'en ai vu, magnifiques.
Oui, là on va retrouver aussi les armoiries de Monaco avec la devise Deo Juvante, avec l'aide de Dieu. Donc ça va compléter l'ensemble des verrières. Je pense qu'il serait intéressant, Philippe, de nous présenter un tout petit peu. Il y a quelques œuvres qui sont, sans être magistrales, sont quand même d'un grand intérêt sur le plan de l'histoire de l'art religieux, à commencer par cet extraordinaire crucifixion dans l'axe du cœur au-dessus de l'autel.
Alors oui, c'est un Christ en marbre de Carrare et de Portor, qui est l'œuvre d'un prêtre, Don Sibéi, qui est peu connu en France, mais qui est très connu en Italie, du côté de Carrare évidemment, et de Pise, où il a réalisé de très belles statues. Et il est aussi bizarrement très connu en Russie, à Saint-Pétersbourg, puisqu'il a aménagé le palais Metchnikov, et toutes les statues sont de Don Sibéi.
Alors ce Christ, il est intéressant car il est sur le fond, c'est une peinture avec un éclair immense. Il y a dans l'arrière-plan, on voit la silhouette, je pense que c'est de Jérusalem, c'est n'est-ce pas, le temple de Jérusalem. Et puis le Christ énorme, mort, et au pied du Christ,
Il y a effectivement Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui est assez régulièrement représentée dans les confréries de pénitents.
Alors Marie-Madeleine, on la reconnaît parce qu'elle est seule au pied de la croix, d'une part, par sa grande chevelure, par le vase de parfum qu'il y a juste à côté d'elle. Et très curieusement, il y a un autre élément iconographique qu'on retrouve assez souvent. Pour signifier que le Christ était le nouvel Adam, on disait qu'au Golgotha, c'était là où avait été enterré le premier Adam, et il y a un crâne et des os. Donc c'est une crucifixion tout à fait intéressante. Et cet abbé Sibéi a fait ce travail à quelle époque à peu près ?
Alors, je crois que on l'a placé en 1772. En fait, il n'était pas placé dans cette chapelle, bien évidemment. Il était placé dans la chapelle qui se trouvait donc au pied de la tour de la Mabotte. Et lors de la Révolution, certains pénitents ont réussi à le cacher. Lorsque les événements se sont calmés, ce Christ a été mis dans une chapelle de la cathédrale. Et nous n'avons pu le récupérer qu'en 1816, contre un échange avec un tableau que nous détenions.
Alors Philippe, devant, juste au-dessus du tabernacle, il y a un autre Christ.
Oui, il y a un très beau Christ, effectivement, en ivoire, qui date du XVIe siècle. Il appelle son père, effectivement, à la différence du grand Christ de Don Sibéi, qui est, lui, un Christ mort.
entourant l'église, nous voyons pas mal de tableaux, de statues. Mais il y a deux tableaux là qui interrogent un tout petit peu par leur qualité. D'abord, Saint-Michel qui terrasse le démon.
Oui, c'est effectivement un des tableaux les plus remarquables de la chapelle. Alors, c'est un tableau de Mignard qui est en fait une reproduction d'une œuvre du Guido Reni, hein, qui est dit le guide, qui est effectivement une très très belle production.
Oui, la qualité picturale est intéressante, il y a de très très belles couleurs, et surtout il y a une composition en diagonale très très dynamique, où on voit l'axe de la jambe qui est sur la tête du diable, et à l'arrière, montant pour prendre son élan, le grand sabre, la grande épée de Saint-Michel, et puis le drapé plein d'envol de la tunique rouge. C'est vraiment une superbe composition. L'autre tableau qui est tout à fait différent dans sa composition, alors je vois écrit Ranc.
Oui, alors effectivement, vous voyez écrit Jean Ranc. C'est pas du tout Jean Ranc, contrairement à ce qui est écrit, mais c'est Antoine Ranc, son père. Alors pourquoi Jean Ranc, j'imagine, et je crois que Jean Ranc était un des peintres officiels de la cour d'Espagne, et c'était peut-être plus prestigieux d'écrire Jean Ranc qu'Antoine Ranc. Ceci étant, c'est un très joli tableau avec représentant Jésus sur la croix d'un côté. D'un côté, on trouve finalement, on a la Sainte Vierge, et de l'autre côté, Saint-Pierre et Saint-Paul. Je trouve une très belle composition. Et là encore, on trouve le Christ qui appelle son Père et qui est en pleine prière. Je trouve ce tableau particulièrement beau.
Oui, c'est assez. Il a un regard assez poignant. C'est quelques gouttes de sang qui parcourent son torse, et puis la Vierge sur la gauche qui se tord les mains de douleur. Et de l'autre côté, Pierre et Paul qui évidemment n'étaient pas présents lors de la crucifixion, en tout cas pas directement auprès de la croix, nous le savons. Mais on voit bien là la figure très, très typique des deux grands fondateurs de l'Église, Pierre et Paul. Pierre tourné qui nous regarde, et Paul les yeux rivés au Christ. C'est vraiment une très très belle toile, avec dans l'arrière-plan, dans le fond, le profil de Jérusalem qui se découpe sur le paysage. Alors Philippe, être pénitent bleu au XXIe siècle. On ne peut plus être de ces confréries très très coincées derrière le souvenir du roi, derrière le souvenir. C'est quand même aujourd'hui une confrérie qui a une lourde charge avec cette église et qui a en même temps le souhait de s'ouvrir à des actions charitables plus structurées, certainement, qui existent déjà de la part de certains d'entre vous.
Alors effectivement, d'une part, notre confrérie ne peut plus exercer l'activité pour laquelle elle avait été initialement conçue et prévue, qui était d'accompagner les morts au charnier, les morts qui mouraient essentiellement de la peste et du choléra. Donc aujourd'hui, notre activité serait quand même relativement limitée.
Et heureusement.
Si nous nous limitions à ceci. Ceci étant, notre confrérie ouvre sa chapelle tous les jours. Il y a une messe tous les matins, sauf le dimanche. Et ça permet effectivement à tous les passants, montpelliérains ou autres, de venir se recueillir, de prier. Au-delà de ça, nous avons un certain nombre de confrères qui s'investissent beaucoup et aident un certain nombre de personnes en difficulté.
Bon, donc actuellement, un gros souci sur vos épaules qui est le maintien de cette chapelle dans sa matérialité, mais en même temps une ouverture permanente au cœur de la ville, ce qui est une performance qui est assez difficile à maintenir. Donc il faut quand même que quelqu'un, et on a vu Patrick tout à l'heure, qui est votre sacristain dévoué, et il ouvre et il ferme tous les jours.
Alors effectivement, on a cette solution qui est quasi miraculeuse, hein, puisque Patrick est notre sacristain, qui est quelqu'un d'extrêmement dévoué, qui est là depuis maintenant, je crois, une quinzaine d'années, et qui ouvre la chapelle tous les jours, et qui effectivement surveille et maintient cette chapelle dans l'état dans lequel elle se trouve.
Dans vos projets d'avenir, vous pensez peu à peu élargir votre noyau actuel. Vous êtes combien de pénitents ?
Alors aujourd'hui, nous sommes exactement 16 ou 17 pénitents inscrits. Ceci étant, ce n'est pas suffisant dans la mesure où nous avons autour de nous une dizaine de personnes qui sont, que je considère moi comme étant des pénitents, mais qui ne se sont pas inscrits effectivement, qui sont là tous les jours, qui sont extrêmement présentes et qui nous aident beaucoup dans le maintien de la chapelle au quotidien.
Et puis on voit qu'il y a des dévotions très, très fortes de la population locale, et Patrick nous disait qu'il y a même des gens de l'extérieur de Montpellier qui viennent régulièrement et qui demandent les intercessions de Sainte Rita, de la Vierge de Lourdes et plus récemment du Padre Pio. Et évidemment de Saint-Roch aussi, qui est Saint-Roch et le grand saint Montpellier finalement.
Saint-Roch qui est le saint qui est dans Montpellier effectivement et a créé beaucoup de dévotion autour de lui. Ceci étant, je crois que la sainte qui attire le plus de monde, si je puis m'exprimer ainsi, c'est Sainte Rita, puisque pour beaucoup de Montpellierains, c'est la chapelle de Sainte Rita.
La patronne des causes désespérées. Alors vous avez dans une chapelle une statue d'un évêque, je crois que c'est Saint-Claude. Alors Saint-Claude, c'est le grand patron de beaucoup de confréries, en particulier de votre confrérie.
Notre confrérie, je vous l'ai dit tout à l'heure, datait de l'an 1040. Et dès cette période-là, notre confrérie s'appelait la confrérie de Saint-Claude, parce que le charnier s'appelait le charnier Saint-Claude.
Voilà, donc c'est l'origine de cette fonction funèbre, mais éminemment charitable, qui était de donner une sépulture décente à des morts qui sans vous n'en auraient pas eu. Alors, on entre dans votre chapelle, et comme dans la plupart de nos églises catholiques, il y a un bénitier, mais vous avez ici deux bénitiers, à droite et à gauche des deux entrées, là, dans chaque entrée, et ces bénitiers sont des véritables pièces extraordinaires, pièces exotiques, sont de vraies coquilles de bénitiers.
Ce sont des coquilles qui ont, je pense, une histoire assez, assez intéressante. Elles nous ont été données au XVIIe siècle par Philippe Laurent de Joubert, qui était président de la Cour des comptes des aides et des finances de Montpellier. Philippe Laurent de Joubert était en fait d'abord un des prévôts de notre confrérie et était très proche de Lamoignon de Baville, qui s'est illustré au XVIIe siècle par une lutte acharnée contre les protestants cévenols avec des dragonnades. Et cette histoire nous a permis en fait cette amitié nous a permis de remonter l'histoire de ces bénitiers. En fait, il y a un Joubert au XVIe siècle qui était d'ailleurs le gendre de Rondelet et qui lui a succédé à sa chaire à la faculté de médecine, qui était un grand collectionneur à la fois d'antiquités mais aussi de pièces exotiques. Et lorsque Montpellier a été rasé par le duc de Montmorency, qui était lui catholique mais qui s'était allié aux protestants à ce moment-là, la collection de Joubert a été totalement pillée par Montmorency, sauf les pièces exotiques. Et en fait, on se rend compte que de Joubert en question était le descendant de Joubert, le professeur de médecine, et que ces pièces donc sont très très anciennes.
Voilà, et sans compter qu'elles ont beaucoup voyagé par-delà les océans, puisque le bénitier ne se trouve que dans des régions, des mers très lointaines.
Oui. Tout à fait. Elles ont voyagé de plusieurs façons. D'abord pour venir dans nos contrées. Et ensuite, à la suite de la Révolution, comme c'était des pièces très rares, elles ont été récupérées par les révolutionnaires qui les ont exposées à la préfecture dans un musée. Et c'est simplement au moment de la Restauration que nous avons pu récupérer ces pièces.
Je voudrais en terminant vous poser une question sur pénitent. On a vu un peu ce que c'était. Mais pénitent bleu, pourquoi bleu ?
On est devenu pénitent bleu au XVIIe siècle, simplement, pour deux raisons, je pense. D'abord parce qu'il y avait une confrérie extrêmement influente dans Languedoc, qui était la confrérie des pénitents bleus de Toulouse, qui effectivement avait un rayonnement phénoménal, et je pense que ça a beaucoup influé sur le choix de cette couleur. Et ensuite bleu, parce qu'effectivement c'était le bleu de la royauté.
Alors j'ai lu quelque part, c'est peut-être vous qui l'avez écrit ou souligné, que le bleu de teinture des habits des pénitents avait un peu l'inconvénient de flanquer quelques maladies de peau. Et donc après, ça a simplement été le camail par-dessus la tunique blanche, je crois.
Voilà, tout à fait, effectivement, les teintures bleues de l'époque devaient utiliser, je ne sais quel, je pense que...
Du pastel.
Et qui, effectivement, créent des maladies de peau. Et après quelques difficultés, nous avons réussi à convaincre notre évêque d'utiliser un sac blanc avec un camail bleu par-dessus.
Voilà l'histoire des pénitents bleus et de leur couleur. Et bien, en tout cas, Philippe, un très grand merci pour votre accueil et puis toutes vos explications. Et puis, je crois que la population de Montpellier peut remercier les pénitents bleus de maintenir une chapelle ouverte à la dévotion tous les jours de l'année, ce qui est quand même une performance remarquable au milieu de la ville, d'avoir un lieu de recueillement, de prière et de dévotion. Un très grand merci Philippe et bon vent à la confrérie des pénitents bleus.
Je vous en remercie et je suis très content d'avoir reçu Radio Maguelone.